Bonsoir. Rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, les députés et sénateurs ont repris ce jeudi 15 septembre le chemin du Palais du Peuple à Kinshasa. Conformément à l'article 115 de la Constitution, la session de septembre est essentiellement consacrée à l'examen et adoption de la loi des finances 2023 ainsi que celle portant reddition des comptes de l'exercice 2021. C'est donc au cours de cette session que le Parlement évaluera la manière dont le pays a été géré en 2021 et programmera à travers le budget les grandes orientations des politiques publiques exécutables en 2023. En plus du budget, quelles pourraient être les autres priorités de cette session de septembre? C'est notre thème de ce soir. Participe au débat Augustin Mulumba. Il est député national élu de Ngandajika dans la province de la Lomami. Il est président de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Il est également cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée. Augustin Mulumba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi.
Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamoukia. Jean-Baptiste Kasekwa, bonsoir.
Bonsoir à tous les co-débatteurs et à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous êtes également membre de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Maître Yves-Michel Biassalou, coordonnateur national de la plateforme citoyenne et électorale dénommée Vigilance 2023. Maître Yves-Michel Biassalou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes très nombreux auditeurs des Radio Capi à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de David Massandi depuis Chabunda, dans la province du Sud Kivu. Le budget de la RDC reste une formalité car aucun contrôle digne n'a jamais été effectué pour savoir réellement son exécution. Plutôt, celle-ci sert aux dépenses des institutions qui prennent plus de 60%. Alors, nous sollicitons que pendant cette session, qu'ils débattent sur les questions sécuritaires, est-ce de la RDC, conflit Yaka et Teke, mais aussi la réduction du train de vie des institutions. Sans cela, le développement sera utopique. À Kananga, dans la province du Kasaï central, vous nous suivez sur la 93.0. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal+, channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Les deux chambres du Parlement ont procédé ce jeudi à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre, une session essentiellement budgétaire. Dans son mot d'ouverture, le président du Sénat s'est montré préoccupé par la détérioration du social de la population et invite le gouvernement à prendre des dispositions pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Bati Lukwebo a notamment plaidé pour l'augmentation du salaire des fonctionnaires afin que cela impacte directement sur les paniers de la ménagère. On écoute le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, au micro de Michel Kifinda.
Sur le plan social, cette nouvelle session sur fond de remous sociaux et de revendications dans les secteurs de la santé publique, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de l'enseignement supérieur et universitaire, sans oublier la baisse du pouvoir d'achat à la suite de la hausse des prix des biens de première nécessité sur le marché. La finalité de la politique doit viser le social de la population qu'elle est censée servir. Dès lors, le gouvernement doit fournir beaucoup d'efforts pour améliorer le vécu quotidien des populations actives, plus particulièrement les agents de l'État. J'invite donc le gouvernement à être réaliste dans les réajustements salariaux tout en tenant compte du panier de la ménagère.
C'était là, Modeste Bati Lukwebo, président du Sénat. Augustin Mulumba, vous êtes député national élu de Ngandajika dans la province de la Lomami. Vous êtes président de la commission politique administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Vous êtes cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée. Ouverture ce jeudi de la session de septembre, une session essentiellement budgétaire. Et selon l'article 126 de la Constitution, le projet de loi des finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le gouvernement au Parlement au plus tard le 15 septembre de chaque année. Est-ce que le projet de budget a-t-il déjà été déposé au Parlement?
Comme vous venez de le dire, madame, le Parlement a ouvert ses portes aujourd'hui. Là, on parle de l'Assemblée nationale du Sénat. La sonalité marquant le début de la session qui est essentiellement budgétaire. Une question qui faille se poser, ce budget qui a beaucoup d'enjeux, qui doit répondre à, essentiellement à plusieurs questions, entre autres les sociales de la population, les financements des élections et surtout la stabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo.
A-t-il déjà été déposé au Parlement?
Je ne sais pas vous répondre parce que je parle très loin, je suis en Gandanjika, comme vous pouvez le constater. Je crois que l'éco-débatteur Kassioko qui est à Kinshasa, qui a participé aujourd'hui, il peut nous en dire plus.
Dans son mot d'ouverture, le président du Sénat s'est montré préoccupé par la détérioration du social de la population. Il invite le gouvernement à prendre des dispositions pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Que pensez-vous de cette déclaration du président du Sénat?
C'est vrai, madame, que cette question du social, c'est une question qui hante nos cœurs. Il a parlé, bien sûr, nous devons mettre ça en œuvre. Parce que comme vous pouvez le remarquer, le social, vraiment, c'est la pertinence, la grande question qui est restée pour soulever et débattre ça. Si on peut prendre avec toute quintessence la question du social, je crois que ça sera un outil de soulagement pour la population congolaise. Nous qui sommes dans nos différentes bases, nous avons vu comment le peuple est en train de souffrir. Cela ne dit pas que le gouvernement n'a pas pu travailler. Vous savez, dans un océan de misère, tout ce qui tombe, c'est comme une gouttelette d'eau. Le gouvernement fournit des efforts, mais les efforts ne sont pas suffisants et que nous leur demandons d'aller de l'avant parce que le tissu social s'est détérioré, comme vous pouvez le constater. Mais je crois que les efforts ont été conjugués, les efforts sont conjugués et seront aussi conjugués. Nous voudrions que ces budgets reprennent essentiellement les grandes lignes telles que les sociales, la stabilisation de l'Est de la République et surtout aussi le financement des élections.
Tissu social détérioré, comme vous l'avez dit, mais on vous reproche, vous députés, de ne pas suffisamment faire votre travail, c'est-à-dire le contrôle parlementaire.
Les contrôles, on les fait. On fait les contrôles. Mais vous savez, avec l'IGF et le Parlement, nous pouvons aussi booster les choses. Les budgets que vous voyez aujourd'hui en 2021, vous savez que c'est pour la première fois que la République ait atteint un montant quand même qu'on peut dire considérable, mais qui n'est pas à la hauteur de notre pays parce que vous savez que les difficultés sont énormes. On ne dit pas que le Parlement s'endort. Le Parlement s'engage aussi à faire des contrôles. Nous l'avons fait. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des ministres qui ont été invités. Bien que cela ne suffisait pas, nous devons toujours conjuguer les efforts pour que ces contrôles en amont soient efficaces et que les fauteurs de troubles répondent à leurs forfaits.
La session budgétaire qui s'ouvre ce jour est d'un enjeu capital pour la RDC selon plusieurs observateurs. Quels pourraient être selon vous ces enjeux, Augustin Moulumba? Il faut signaler que nous sommes à une année de la tenue des prochaines élections en RDC.
Je crois que la plus grande question qui peut se poser, c'est la question des élections. La question de l'insécurité à l'Est, je crois que ce sont les deux grandes questions majeures qui doivent nous préoccuper de plus. Parce que s'il faut parler des lois, nous en avons assez. S'il faut parler d'autres choses, nous en avons. Mais il faut s'établir sur les deux grandes questions. Les sociales, on en a déjà parlé. La stabilisation de l'Est, qui est en proie, ça fait plusieurs années. Et aussi le financement des élections pour respecter la Constitution. Ce sont les trois grandes questions parce que, comme vous pouvez le constater, les Congolais murmurent. Pourquoi Bounagana, jusqu'à maintenant, est entre les mains des rebelles? Je crois que si on stable sur ça, si on affecte aussi un grand budget à l'armée pour stabiliser l'aide de la République, je crois que c'est un pari gagnant.
Les Congolais murmurent aussi sur les trains de vie des institutions, notamment la polémique qu'il y a ces derniers temps sur les salaires des députés.
Je pense que le président en a déjà parlé, que le train de vie doit être revu à la baisse. On doit affecter beaucoup d'argent ou la grande partie au projet d'investissement pour ne pas parler des salaires des députés parce qu'il y a à manger à boire dans cette histoire. Donc nous devons faire les efforts d'abord de mobiliser les recettes parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que le budget que nous avons aujourd'hui, c'est un effort conjugué du gouvernement de l'Union sacrée. Bien que suffisamment ces budgets ne répondent pas aux besoins sociaux de notre peuple, étant donné que nous venons d'un trou très profond dans lequel le Congo était jeté, ça fait plusieurs années. Aujourd'hui que le Congo est en train de se redresser, il faut quand même conjuguer les efforts et aussi ne pas seulement affecter les budgets, la bonne partie du budget dans les frais de rémunération, il faut aussi affecter une grande partie du budget dans les projets d'investissement.
Êtes-vous prêt aujourd'hui, vous députés de l'Union Sacrée, à accepter que vos salaires soient revus à la baisse?
Pourquoi pas ne pas accepter? On doit toujours accepter. On doit accepter. Mais je crois que les gens font l'amalgame sur cette question, cette grande question des salaires des députés. Personne ne peut contredire que ce que nous touchons, je crois qu'il y a la disparité, si on peut le dire ainsi, mais ça ne répond pas vraiment aux besoins parce que vous n'êtes pas sans savoir que les députés est un agent social pour le moment. Ils répondent à des besoins sociaux de la population. Tout cela, je crois que ce sont des grandes questions auxquelles nous devrions aussi penser.
Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, député national, élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition La Mouka. Vous êtes membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. C'est vrai que la session est essentiellement budgétaire, mais quelles pourraient être selon vous les autres priorités de cette session de septembre?
La toute première priorité devait consister à l'interpellation du ministre, du premier ministre, parce que, madame, la toute première action du programme sur base duquel M. Samalou Kone et son gouvernement ont été investis à date du 26 avril 2021 était formulée comme suit. La première action de son programme, établir une administration militaire dans les zones en proie à l'instabilité et au conflit. Et ensuite, deuxième action, établir en appui à l'administration militaire la justice militaire dans les zones concernées, dans le but d'instaurer un état fort à mettre fin au cycle de violence à l'Est. C'est dans cet objectif que sept jours après son investiture, soit le 3 mai 2021, l'ordonnance portant proclamation de l'état de siège a été signée, avec comme objectif d'endiguer la menace que constituait la situation préoccupante qui se glissait à l'Est à cette période-là, endiguer la menace à l'intégrité territoriale. Curieusement, aujourd'hui, soit plus de 400 jours après l'instauration de l'état de siège, Bunagana est sous occupation rebelle depuis le 13 juin de cette année. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 497 jours de l'état de siège. Bunagana est toujours occupé et donc, avant même que le premier ministre ne vienne nous présenter le budget, nous devons mettre en cause sa responsabilité par une motion de censure et pour cela, respectant la procédure prévue dans le règlement. Et si le député se montre courageux, de la même manière que le ministre de l'économie a été sanctionné, je pense que logiquement, le premier ministre devait d'abord être sanctionné pour son fiasco en rapport avec la situation sécuritaire qui sévit à Rutshuru, à Minembwe, à Mutembo, à Beni, dans les Djougou, dans la ville même de Bounia. Et ensuite, quelqu'un d'autre de plus approprié viendrait avec un budget pour la dernière année du quinquennat de M. Félix Tshisekedi.
Est-ce que vous avez déjà reçu le projet de budget 2023?
Non, le projet a été adopté à Conseil des ministres le 2 septembre. Il a été dit qu'il devait être présent, déposé au bureau avant le 15 septembre, mais le président de l'Assemblée, dans son discours aujourd'hui, il a exhorté le gouvernement à faire diligence pour déposer cela dans le délai. C'est dire que cela n'est pas encore déposé.
Ce projet de budget est chiffré à 14 milliards de dollars avec un taux d'accroissement de 32,6% par rapport à 2022. Faut-il féliciter le gouvernement par rapport à cette performance?
Non, madame, je ne saurais rien féliciter sans évaluer exactement ce qui a été fait en 2020. Voilà pourquoi, au même moment que, d'abord, par exemple, pour la question sécuritaire, le gouvernement doit être sanctionné, mais le bureau de l'Assemblée mérite également d'être sanctionné parce qu'il a bloqué systématiquement les contrôles de l'exécution du budget. Madame, vous pouvez vous figurer, selon notre règlement d'ordre intérieur, il est prévu à l'article 210
que la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale effectue un contrôle trimestriel de l'exécution du budget et le rapport de ce contrôle trimestriel doit être présenté à la plénière de l'Assemblée. L'unique contrôle trimestriel fait par notre commission n'a été fait que à septembre 2020. Le rapport a été déposé au bureau de l'Assemblée, c'était le bureau Mabunda. Jusqu'à ce jour, ce rapport n'a jamais été examiné. En 2021, la commission n'a pas été autorisée à effectuer les contrôles. En 2022, les contrôles n'ont pas été faits. Pourtant, la commission, je l'ai appris, que la commission a même introduit une lettre auprès du bureau du président Mbosso qui a bloqué. Et donc, le projet de loi de révision des comptes de l'exercice 2021 ne sera pas examiné avec lucidité parce que le député ne dispose pas des 4 rapports trimestriels qu'elle devait leur fournir la commission. De même, il est prévu que le gouvernement dépose un rapport de l'exécution du budget semestriel 2022, les 6 premiers mois. Et pour ces 6 premiers mois, la commission ECOFIN devait avoir effectué 2 missions de contrôle. Ces missions n'ont jamais été effectuées. C'est dire que le bureau de l'Assemblée consacre l'inefficacité du contrôle, consacre l'opacité de l'exécution, raison pour laquelle, à l'absence de ces contrôles, en fait, la session perd toute sa pertinence et le vote du budget 2023 n'aura pas de repère solide. Raison pour laquelle je ne sais pas dire qu'avec cet accroissement de plus de 30%, c'est une performance ou non, étant donné que le gouvernement, le bureau de l'Assemblée, nous a empêchés de disposer de ces rapports de contrôle trimestriel prévus dans notre règlement d'ordre intérieur par la commission ECOFIN de notre propre champ.
Maître Yves Michel Biassalou, coordonnateur national de la plateforme citoyenne et élections dénommée Vigilance 2023. Quels sont, selon vous, les dossiers urgents qui devraient être traités au cours de cette session de septembre, session essentiellement budgétaire?
Oui, madame. Évidemment, comme vous le savez, l'article 115 en parle. Donc la session est totalement budgétaire, mais à suivre l'intervention du président de l'Assemblée nationale, nous avons déjà constaté que le rapport du gouvernement n'avait pas été déposé par rapport à l'exécution budgétaire. Ça c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que la population qui attendait écouter comment a été exécuté le budget de l'État n'avait pas obtenu jusqu'ici la réponse à ces questions. Donc c'est vraiment dommage qu'un gouvernement ne respecte pas les textes. Ça c'est pratiquement étonnant. Et l'Assemblée nationale qui devait prendre les dispositions nécessaires pour que cela n'arrive pas, n'a pas pris aussi les dispositions qu'il fallait. En ce qui concerne les matières que je dirais qui constituent des priorités en dehors de l'exécution budgétaire, il y a par exemple la sécurité à l'est du pays, parce que jusqu'à présent, Bounagana sème confusion. Jusqu'à présent, on ne sait pas quelle est la situation de Bounagana. On dit qu'elle est toujours, cette cité est toujours entre les mains des rebelles. Donc ça, c'est vraiment dommage aussi, parce que le gouvernement devait faire beaucoup d'efforts pour que nous puissions quitter cet état des lieux. Et nous devions aujourd'hui apprendre la réalité de la question, malheureusement. Il y a aussi la matière électorale, parce que les élections, c'est l'année prochaine, si cela est possible. Mais il y a une confusion au niveau de la CENI, parce que jusqu'à présent, les choses, les indicateurs ne précisent pas que les élections pourront vraiment avoir lieu au mois de décembre 2023. Donc là, c'est aussi une question très importante sur laquelle il fallait qu'on s'y penche. Il y a la question du social, le panier de la ménagère. Comme vous le savez, vous tous, la situation du Congolais, le vécu quotidien est problématique. Les cris d'alarme viennent de partout, la situation est dégradante. Donc, à peine vous avez appris la pénurie du carburant, et vous savez comment cela a impacté sur le transport public et tout le reste. Donc, tout ça, c'est de la confusion. Et nous avons aussi les grands travaux, parce que nous devons aussi parler développement. Jusque-là, rien n'est fait. On doit nous parler de la question des 145 territoires. Vous connaissez le projet phare du gouvernement, mais qui jusque-là n'a pas d'abord un tout début de l'exécution de ce projet. Donc ce sont les quatre axes qui sont pratiquement indispensables. Il faudrait quand même que l'Assemblée nationale en tienne compte et puis puisse répondre à ces questions-là, parce que une autre session, ça sera pour le mois de mars prochain. Mais je crois que nous allons
l'année
déjà
prochaine, ça sera déjà
l'année prochaine,
l'année électorale.
Nous allons déjà entamer l'année électorale et que des questions comme ça peuvent vraiment influer sur les élections prochaines.
Alors, il y a beaucoup d'observateurs qui pensent qu'il y a certaines questions qui risquent de ne pas être alignées. L'année prochaine, c'est l'année électorale. On risque d'aller aux élections avec plusieurs dossiers qui vont rester pendants.
Oui, évidemment. Il y a des dossiers qui resteront pendants. Mais écoutez, nous sommes une structure citoyenne. Vous avez décliné notre identité. C'est Vigilance 2023. Nous sommes en train de suivre les activités du Parlement. Et nous ne sommes pas d'accord en tant que citoyens de voir comment les choses vont se passer. Donc les quatre points dont nous avons parlé, la sécurité de l'Est du pays, les élections, les grands travaux, le social du citoyen, ce sont des points très importants pour lesquels nous devons avoir des réponses. Et en tant que citoyens, s'il n'y a pas de réponse, nous ne voyons pas comment il faudrait aller aux élections, comment nous pouvons donner confiance aux gens que nous allons élire. Et je voudrais par cette occasion, madame, vous dire que déjà le peuple congolais, à travers la Vigilance 23, parce que vous savez, tout à l'heure j'ai suivi l'intervention des députés, qui a évoqué, il a évoqué multiples fois, l'existence du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais vous devez savoir que les députés, en dehors de la Constitution, ils fonctionnent, l'Assemblée nationale fonctionne aussi avec les règlements intérieurs, mais c'est pas suffisant. Donc, Vigilance fait le droit à mettre sur pied aussi le code de déontologie et d'éthique des députés. Et je pense que vous allez remarquer en 2023 que la population voudra négocier beaucoup de choses avant les élections, notamment il faudrait absolument que nous puissions avoir des garanties qui feront que les députés puissent dépendre de la population. Parce que la citoyenneté aujourd'hui est réduite au vote. Lorsque le citoyen vote, c'est fini. On n'en a plus besoin. On obtempère maintenant aux instructions des partis politiques. Donc il y a déjà en ligne un projet de loi portant éthique et déontologie des députés et sénateurs. Et je pense que nous avons introduit dans ce projet de loi, c'est ce qu'on appelle la révocation populaire, qui sera le système que nous allons négocier avec les députés pour qu'ils puissent accepter qu'en cours de mandat, leur mandat puisse être arrêté par la population. Je pense que ça, c'est une nouvelle matière qui va intervenir parce que, à cette allure, si notre Assemblée nationale est incapable de nous donner des réponses précises sur la question sécuritaire, sur les élections, sur les grands travaux, les 141 territoires dont on a tant parlé, si on ne donne pas de réponse sur le panel aménagère, on pense pas que la population sera vraiment enthousiasmée de pouvoir voter. Aujourd'hui, avec les statistiques, nous savons qu'il y a déjà 40% d'abstention qui se prépare. Nous ne pouvons pas accepter que la population s'abstienne de voter.
On va prendre à présent les questions et préoccupations des auditeurs qui sont très très nombreux à appeler sur notre standard. On va se rendre à Bukavu, au Sud Kivu, pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, Augustin Mulumba.
Éminent, moi, Asani Sangolimboli, j'appelle depuis la ville de Bukavu, au Sud Kivu. Le respect des peuples est une chose, mais l'application effective de ceci en est une autre. La rentrée des coutumes parlementaires, nommée budgétaire, du septembre 2022, est un exercice démocratique à saluer et qui, au demeurant, renfle les poches des plus riches dans ce pays. Toutefois, cette session pourrait traiter, outre le budget, la question sécuritaire à travers le pays en général et particulièrement de l'Est qui endeuille du jour au lendemain les citoyens congolais en ce jour. Les possibilités d'organisation des élections présidentielles, législatives, apaisées, démocratiques et inclusives dans le délai légal, les traits de vie sociale et les rajoutements de la classe politique qui s'enfle dans le populisme et l'anticipation des propagandes.
Augustin Mulumba, vous avez suivi cet auditeur de Bukavu qui propose ce qui devrait être fait au cours de cette session de septembre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, madame, c'est comme je le disais tout à l'heure, que les budgets et cette session de mars et sanctionnement budgétaire, les grandes lignes devraient être normalement la prise en charge du social, la guerre à l'est de la République, et aussi l'organisation des élections en 2023. Donc l'auditeur n'a pas tort. Comme vous le savez, nous sommes un parlement ou l'Assemblée nationale qui doit répondre aux besoins de la population qui nous a élus et nous devons les faire en toute responsabilité.
Vous donc, êtes membre de l'Union Sacrée, vous avez suivi Maître Yves-Michel Biassalou et même Jean-Baptiste, votre collègue Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, qui est revenu sur le discours du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, qui regrette un peu le fait que le rapport d'exécution du budget 2021 n'a pas encore été déposé au Parlement alors que c'est quelque chose qui devrait déjà être fait.
Ils sont encore dans les délais parce que je sais que normalement ils devraient déposer avant les 15, mais peut-être qu'aujourd'hui ou demain ils ont déjà déposé, ils vont déjà déposer. Là, c'est une question de quelques temps tout simplement. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas à discuter, il n'y a même pas à se poser plusieurs questions.
Mais c'est pas la première fois qu'on dénonce un peu ce comportement du gouvernement.
Je pense que l'année passée, ils ont déposé à délai. Ils ont déposé le budget à temps. Cela n'est pas, ça c'est une distraction tout simplement. Je crois que le gouvernement s'est déjà accommodé à déposer les budgets. Ça a été déjà voté au niveau du gouvernement, les dés, comme le collègue Jean-Baptiste venait de le dire. Donc les dépôts ne poseront aucun problème. Ils vont déposer ça d'ici là. Il faut se poser la question sur les grandes questions à soulever pendant cette plénière, cette session. La question de l'est, de l'insécurité, la question du social, la question des élections. Voilà les grandes questions auxquelles on pouvait s'appeler.
Jean-Baptiste Kasekwa, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimaï.
Patrick de Mbujimaï au Kassai oriental. Le Parlement doit également se pencher sur le problème de réduction des trains de sécurité, évaluer la situation du Bunagana pour voir dans quelle mesure du possible faire libérer cette partie du territoire sous occupation. Il doit en outre être un noyau dur pour faire le suivi en rapport avec les processus électoraux pour un meilleur atterrissage. Et il doit aussi exiger au gouvernement de résoudre le problème des pénuries de carburant pour rendre régulier les transports aériens. Bref, le Parlement doit jouer son rôle et séculier sans excuse ni complaisance aucune. Car quand lui, le temps ne marche sur nos têtes et quand il est indifférent aux cris du souverain, ça s'appelle de la complicité pure et simple, envie de satisfaire leur ventre d'abord. C'est de la trahison, ça.
Vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne, Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa. Cet auditeur interpelle le Parlement. Vous devez jouer votre rôle constitutionnel et séculier sans excuse ni complaisance aucune. Comment vous lui répondez?
Non, il a parfaitement raison. Par exemple, au sujet de la réduction du train de vie. Plusieurs questions méritent d'être débattues et trouver des réponses. Par exemple, les nombres excessifs de ministres au gouvernement. Une soixantaine de ministres. J'ai appris par un collègue que le salaire d'un ministre tourne autour de 45 000 dollars. Et lorsque vous en avez 60 ministres, 63, pour un résultat absent, eh bien, vous appréciez. C'est que cela coûte sur le budget. L'autre secteur, c'est le pléthore des conseillers à la présidente de la République. J'ai appris qu'un conseiller touche autour de 27 000 dollars, 32 000, 35. Le pléthore des services à la présidence, des services qui n'ont même pas le droit d'exister. Cabinet de l'épouse du chef de l'État. Est-ce que le Parlement peut prendre le courage aujourd'hui pour réduire les trains de vie des institutions? De nous montrer rigoureux de manière à supprimer toutes ces structures inutiles, réduire la taille du gouvernement pour ne rester qu'avec 25-30 ministres, de sorte que toutes les rubriques là que nous allons gagner, nous puissions l'affecter dans des projets d'investissement, des infrastructures dans le Kassai, dans d'autres provinces, dans l'amélioration des routes des dessertes agricoles, la construction des écoles, des hôpitaux. De cette manière-là, au cours de l'année 2023, on peut voir le gouvernement réaliser des projets à impact visible. Il a également parlé de l'obligation
de l'organisation des élections pour un atterrissage à douceur. Je suis de son avis. On ne peut même pas se poser la question de savoir s'il y aura élection l'année prochaine. Les élections doivent avoir lieu, même sous la COVID. La France a organisé des élections. Les États-Unis, le Sénégal. Et donc ici, le gouvernement à place n'a pas d'excuse, faute de quoi il devrait démissionner et Félix ne devrait plus rester là si, en tout cas à la fin de l'année 2023, les élections ne sont pas organisées. Et pour cela, il faut donc faire des purges, réduire les traits de vie des institutions de sorte que le financement des élections ne puisse pas en souffrir. Il a donc parfaitement raison. La question de la libération de Bounagana. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, en fait, Sam Malukonde devait déposer sa démission parce que nous lui avons laissé instaurer l'état de siège plus de 490 jours après, alors que l'état de siège a été instauré pour éviter que l'intégrité territoriale ne soit pas menacée. Mais depuis le 8 novembre, la rébellion du M23 surgit. Le 13 juin, il a pris Bounagana. Jusqu'à ce jour, d'ici le 21 septembre, le monde va commémorer la journée internationale de la paix. Mais nous, nous allons commémorer le 100e jour de l'occupation de Bounagana. Et pour cela, nous allons à nouveau accorder naïvement la confiance au gouvernement Sam Malukonde. Non, on doit se montrer rigoureux et sanctionner là où il faut.
Vous avez parlé de la réduction du train de vie des institutions. Vous avez cité le gouvernement et la présidence. Pourquoi pas le Parlement, Jean-Baptiste Kasekwa?
Absolument. Un contrôle sérieux s'impose. À plus de la rémunération du député, tous les frais appelés frais de fonctionnement des institutions. Vous trouvez ce que l'on appelle des fonds secrets de recherche à l'Assemblée, au Sénat, mais des fonds secrets de recherche entre les mains du bureau du Parlement. Pour servir à quoi? On fait les secrets recherche autour de qui? Donc, il y a des rubriques qui méritent d'être supprimées au profit des projets d'investissement, mais il n'y a pas que là. Dans le ministère, dans les administrations publiques, à la DGI, dans toutes les régies, il faut que l'on fasse une purge, mais je ne vois pas Félix avoir cette tendance ou le gouvernement de l'Union sacrée avoir cette tendance. Et pour y parvenir, il faut une pression de toutes les organisations citoyennes afin que nous puissions réduire effectivement ce train de vie et accorder la priorité aux secteurs vitaux, notamment le secteur de la sécurité, de la santé, de l'éducation, des infrastructures. Et pour cela, les effets des investissements dans ce secteur devraient servir à tout le monde et l'économie du pays peut être boostée et même le niveau des recettes nationales devrait être majoré. Mais à côté de cela, il y a la catastrophe qui s'est faite dans les provinces sous état de siège. La loi dit que avant au plus tard le 15 août, les gouverneurs des provinces doivent avoir envoyé leur budget au gouvernement central. Ce budget devait avoir été adopté par les assemblées provinciales. Mais pour l'Ituri et le Nord Kivu, qui a avalisé le budget établi par les gouverneurs militaires? Qui contrôle leur exécution? Pourquoi l'Assemblée nationale s'interdit d'effectuer une exécution dans ces provinces-là où les recettes des provinces sont bouffés comme de la cacahuète sans aucun contrôle?
Alors, Jean-Baptiste Kasekwa, parlons des élections. Vous exigez que celles-ci se tiennent dans le délai constitutionnel. Il faut savoir aussi que la commission électorale attend du Parlement l'adoption, le vote de deux lois essentielles, celle portant répartition des sièges et celle relative à l'enrôlement et à l'identification des électeurs. Si au niveau du Parlement vous retardez l'adoption, le vote de ces lois, il sera difficile de tenir les prochains scrutins dans les délais constitutionnels.
Je pense que le vote de ce loi-là n'exige pas assez de temps. Le président de l'Assemblée a parlé de deux lois, la loi organique portant fonctionnement de la CENI, qui a été adoptée sans consensus, l'Union sacrée s'est imposée, la loi sur les élections, sans consensus, et donc l'Union sacrée ne peut pas trouver d'excuse pour retarder le vote de ces deux lois-là. Ils ont la majorité, rien n'est fait ombrage au vote de ce loi-là. Et donc, qu'il pleuve, qu'il neige, en 2023, les élections doivent avoir lieu étant donné que l'Union sacrée ne veut pas sanctionner le Premier ministre, ne veut pas sanctionner le bureau de l'Assemblée qui bloque les contrôles, nous ne pouvons pas accepter qu'elle prive le droit au peuple congolais en 2023 de sanctionner toute cette majorité qui bloque le bon fonctionnement du pays.
Maître Yves-Michel Biasalou, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient du Haut-Katanga.
Maître Fils Kipadi, avocat au barreau du Haut-Katanga et chef de travaux à l'université de l'Ekassi. Effectivement, la rentrée parlementaire de ce 15 s'annonce une rentrée de beaucoup d'enjeux, étant donné que cette rentrée sera consacrée à une session essentiellement budgétaire. Et ma préoccupation, c'est d'abord le fait que je m'indigne du fait de nos élus nationaux, notamment ceux de la circonscription de l'Ekassi, que nous n'avons pas vu pendant les vacances parlementaires. Ma question demeure celle de savoir, dans leur rapport de vacances parlementaires, ces derniers auront à reprendre quoi? Ils auront à écrire seulement ce qu'ils ont toujours connu, qui est connu aussi même du Congolais lambda, pour que ces désidératas de la population, en particulier de la ville de l'Ekassi, soient aussi inscrits, tant soit peu, dans les bijoux. Ça, c'est la première manche. La deuxième manche, je voudrais insister sur le fait que nos élus, tous, sans tenir compte de leur famille politique, qu'ils tiennent compte dans ce budget, afin que ce budget soit un budget qui va répondre au social de la population congolaise. C'est-à-dire, le social ici, c'est l'éducation, le social ici, c'est le transport, c'est tout ce qui concerne les besoins vitaux de la population.
Maître Yves-Michel Biasalou, vous avez suivi Maître Fils Chimpadi depuis le Haut-Katanga, qui est revenu sur une autre question, celle des rapports des vacances parlementaires de nos députés et sénateurs. Comment vous réagissez à son point de vue? Allô, Maître Yves-Michel? Maître Yves-Michel, est-ce que vous m'entendez? Je crois qu'on a perdu Maître Yves-Michel. La réalisation va essayer de le rappeler. Augustin Moulumba, nous sommes à la fin de notre émission. Je rappelle que vous êtes député national, élu de Ngandajika dans la province de la Lomami, président de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale, également cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Vous avez suivi le député Kasekwa qui vous a presque accusé, vous, député de l'Union sacrée, de favoriser beaucoup de choses en faveur du gouvernement et d'oublier la population. J'ai parlé ici de lois électorales qui devront être votées au cours de cette session pour permettre à la CENI d'organiser les élections et de respecter les délais constitutionnels l'année prochaine. Brève réaction par rapport aux propos du député Mwindo Kasekwa, et vous allez en profiter aussi pour conclure.
Madame, comme vous le savez, mon collègue Kasekwa, c'est un opposant. Il n'est pas en tant qu'opposant. Il ne peut jamais jeter des fleurs sur des bonnes actions menées par le président de la République ou le gouvernement. Je vais lui demander de se préparer déjà parce que les DPS, l'Union sacrée, ils sont prêts à aller aux élections. Il y aura bel et bien élections en 2023. Et des lois sans vanter seront bien votées à l'Assemblée nationale pour permettre à la CENI d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas à se plaindre, il n'y a pas à regretter. Nous demandons à notre collègue de se préparer pour lui dire que les élections vont se tenir en 2023 conformément à la Constitution.
Qu'en est-il du contrôle parlementaire?
C'est à l'issue de ce contrôle que le ministre de l'économie a été démis de ses fonctions. Vous connaissez madame. On ne peut pas dire que l'Assemblée nationale, c'est une église. Tout simplement, les gens y partent sans travailler. Le contrôle est là, les gens travaillent. Bien qu'il y a encore des choses qu'il faut faire, il faudra encore accentuer pour permettre à l'État de rafler les caisses. Nous voudrions qu'en 2023, le besoin populaire soit répondu, que le peuple mange à sa faim, que la sécurité de l'Est soit rétablie. Tout ça sont des grandes questions qui nécessitent des moyens, des grands moyens d'ailleurs. Donc, le contrôle est là. Nous demandons aussi au président de l'Assemblée nationale de nous aider à contrôler comme il l'a toujours fait.
Nous, moi et les collègues Moïndo, il connaît déjà que beaucoup de ministres sont passés par notre chambre dans les contrôles. C'est dans ces cadres-là qu'il faut quand même louer les efforts de l'Assemblée nationale, du président quand même. Contrairement à l'époque de Mabunda où tout a été boutiqué, Mbosso a quand même la volonté de faire avancer les choses.
Merci Augustin Moulumba. Maître Yves Michel Biassalou, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Alors, il y a un auditeur que nous avons eu depuis le Haut-Katanga. Est-ce que vous l'avez suivi?
Oui.
Alors, un commentaire par rapport à son point de vue et qu'est-ce qui doit être amélioré selon vous dans le travail des parlementaires? Ça sera aussi votre conclusion.
Oui, madame. La façon de travailler des députés est bizarre. Les députés, ce sont des représentants du peuple. Ils sont censés parler au nom du peuple. Mais ce que nous constatons, c'est quoi, madame? La population congolaise, après les élections, n'a plus d'autorité sur les députés. Parce que la citoyenneté est réduite au vote. Lorsque le citoyen a donné son mandat, le reste, ça ne regarde pas. Voilà pourquoi le député rentre dans le cadre de son parti politique, il commence à travailler en fonction du parti politique et la population qui est l'émanation de son pouvoir n'a plus de contrôle sur lui. C'est ce que nous avons dit. Et maintenant, nous devons négocier avec les députés. C'est-à-dire comme pour dire, vous votez et nous votons aussi. Nous avons déjà en ligne un projet de loi qui met un terme à ça. Le projet de loi portant éthique et déontologie des députés et sénateurs. Ce projet de loi comprend là-dedans le système de révocation populaire.
Alors ça, vous l'avez déjà dit.
Vous l'avez déjà dit. Donc maintenant, nous n'aurons plus à regretter ce que les députés font parce que nous aurons le contrôle sur eux en 2023. Ça, c'est clair. Il n'y a plus de discussion là-dessus. Tout à l'heure, je viens de suivre ce que l'honorable vient de dire. Tout à l'heure, il vous confirme que le contrôle parlementaire est là. Mais quel contrôle parlementaire? Lorsque l'exécutif ordonnance avec les législatifs, quel contrôle vous allez encore faire? Parce que vous l'accompagnez dans les dépenses qu'il fait. Vous n'allez plus le contrôler. Ça, c'est clair. Donc, il n'y a plus à aménager là-bas. Qui se prépare en 2023, nous allons terminer avec eux.
Merci, voilà. Maître Yves-Michel Biassalou. Jean-Baptiste Oka, c'est quoi votre conclusion en 30 secondes?
Ma conclusion, c'est que nous devons premièrement sanctionner tout le ministre défaillant. Avant le 29 septembre, le gouvernement va solliciter la 33e prorogation du fameux état de siège. Dans un contexte où Bounia est à feu, où Biakato, plus de 50 morts sont comptés, Matolo, Aboutembo, n'en parlons pas, où nos réfugiés congolais vivant en Ouganda sont expulsés. La première chose, à l'occasion de cette demande de prorogation de l'état de siège, à la limite, le ministre de la Défense devrait être sanctionné, démis de ses fonctions, parce qu'en dépit de l'état de siège, la situation se détériore. À plus du ministre de la Défense, Sam Alukonde devrait avoir le courage de démissionner, parce qu'en réalité, tout ce qu'il va nous présenter comme budget de sa promesse pour 2023, n'est que folklore au regard de ce qu'il n'a pas su faire en 2021 et 2022. En dernier lieu, c'est M. Mbosso Kodia, président de l'Assemblée, qui mérite d'être sanctionné au même titre que Mabunda, parce qu'en bloquant les contrôles sur l'exécution du budget 2021, en bloquant le travail de la commission ECOFIN, il encourage la mégestion et à ce titre, il mérite également une pétition de déchéance. J'invite les collègues de l'Union Sacrée à prendre tout le courage à mettre pour les sanctionner de la même manière qu'ils l'ont fait. Contre Ilukamba et contre Mabunda, le peuple ne pourra que, c'est ce que le peuple attend de nous, et faire pression pour que Bounagana soit libéré, qu'on ne puisse pas fêter les 100 jours de l'occupation, permettre au Rwanda et au M23 de jubiler. Au drame du Congolais.
Merci Jean-Baptiste Kassekwa, on vous a compris. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. La mise en onde est assurée par Dieudonné Nyangasa. Présentation et coordination, Kelly Nkouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.